La table des gourmands. Jean-Michel.
Bonjour.
Bienvenue. Avouez que l'on est un bon vivant, c'est déjà bien. Mais je vous assure que ça sonne mieux si vous dites que vous êtes un épicurien. Tout cela n'est qu'une question de perception. Mais qu'est-ce que ça dit de nous, ce que l'on mange? Et lorsque l'on dit que l'on est bien dans sa tête, est-ce que ça veut toujours dire que l'on est dans son assiette? Pour répondre à ces questions et à quelques autres, on a demandé à Charles-Édouard Rangade de venir à notre table. Il est psychiatre, son cabinet est à Neuchâtel. Il vient parfois dans l'émission Format 3 et j'ai appris de sources sûres que la cuisine est une jolie passion pour lui. Ses origines font peut-être de lui un bon gourmand, un bon gourmet. Et peut-être qu'avec cet invité-là, on pourra dire lors de notre prochaine tablée aux convives qui nous accompagnent, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai peut-être qui tu es. »
La table des gourmands, jusqu'à 19h.
Bonjour Charles-Édouard Rangade.
Bonjour Jean-Michel.
Bienvenue. J'ai vu que vous aviez pas mal de diplômes dans votre curriculum vitae. La question que je me posais, c'est que est-ce que chaque diplôme était suivi d'un bon repas ?
Jusqu'à l'indigestion, je veux dire.
Ah oui.
Du coup, il faut rester humble et de finalement en apprenant qu'on n'apprend rien sans passer par l'autre, on sait rien tout seul. Donc, merci de cette invitation. J'en ai l'eau à la bouche.
Voilà. Manger, c'est la fête. C'est un besoin chez l'être humain d'allier les deux.
Souvent, les événements sont associés hein, à la fête et justement, l'alimentation, manger, ça peut pas se faire autrement. Est-ce qu'on peut faire la fête sans manger ? Est-ce qu'on peut faire la fête aussi sans boire ? D'ailleurs, il y a beaucoup de patients alcoolodépendants.
C'est la question qui se pose et c'est finalement ce qui se véhicule actuellement. Faire la fête sans boire, ça doit aussi être possible et certains le font très bien.
Oui, c'est vrai. Je pense que le fait de manger pour faire la fête, c'est une façon de aussi passer par les sens. Et atteindre l'ivresse, c'est atteindre l'ivresse des sens. Finalement, manger, c'est revenir sur des choses très physiologiques, très organiques, pour rencontrer l'autre, un peu comme une main sur l'épaule. L'aliment posé sur la lèvre est une invitation à l'échange, au discours.
Donc, réellement, notre alimentation, notre manière de manger, de se mettre à table, c'est aussi parfois quelque chose qui se joue dans notre tête, dans notre cerveau.
Oui, mais la manière dont on mange en dit long sur ce qu'on est ou comment on est, puisque d'ailleurs, on le voit déjà quand on n'est pas dans son assiette, vous le disiez au début d'émission, on n'a pas faim. Quand on va pas bien, on a envie d'être seul, de se replier sur soi. Quand on est heureux, qu'on est bien dans ses baskets, on a envie de remettre le couvert, si j'ose.
Est-ce que parfois vous parlez d'alimentation avec vos patients ?
Beaucoup, c'est un point qu'il faut évaluer, parce que c'est déjà le lieu du bien-être, et quelqu'un qui mange bien, et quelqu'un qui est heureux, la manière dont on mange, on le disait, mais aussi ce qu'on mange. Une mauvaise alimentation rend malade sur le plan psychique. On parle de l'alimentation, mais pas que de ça, évidemment. On parle aussi de comment on dort, quel est son quotidien, quelles sont ses activités, quelle est son humeur.
Mais il y a un moment donné où tout est lié. On dort bien si on mange bien, si on mange correctement. Si on ne mange pas correctement, on ne va pas dormir correctement. Et donc, le lendemain, ça va se ressentir aussi.
C'est vrai. D'ailleurs, on a un peu pris les gens pour des enfants en leur disant qu'il fallait manger d'une certaine manière. Hein, 3 repas. C'est au 19e que c'est apparu, ça. Hein, 3 repas. En Asie, on mange quand on a faim. Il n'y a pas ce rituel de 3 repas par jour très strict. Plus récemment, dans la paysannerie, par exemple, on ne faisait pas forcément 3 repas. Les bourgeois mangeaient toujours de la viande à chaque repas. Maintenant, on en revient, heureusement. Et la manière dont on mange en dit long aussi sur la manière dont on considère la bonne santé. Le régime français, par exemple, où on disait, tiens, il faut un verre de vin par repas pour vivre longtemps, aujourd'hui, on en est complètement revenu. Hein. On sait que, toute prise d'alcool est mauvaise pour la santé.
Il y a beaucoup d'expressions qui sont liées à la cuisine, hein, être bien dans son assiette, on en a parlé tout à l'heure, bouillonner, laisser mijoter. L'amour et la cuisine font bon ménage aussi, on aura encore l'occasion d'en parler tout à l'heure. D'ailleurs, moi j'ai le souvenir d'une chanson de Michel Legrand qui avait fait une splendide chanson où il parlait presque des préliminaires, mais avant les préliminaires, comme on prépare un moment d'amour, on prépare la cuisine aussi. C'est très lié.
Ah oui, mais je pense qu'il y a quelque chose d'érotique, sinon de sexuel, dans le fait de manger. Et que la séduction passe d'abord par l'assiette avant d'aller plus loin.
C'est-à-dire qu'on passe d'abord par l'assiette et c'est après qu'elle passe à la casserole. C'est ça que vous vouliez dire un peu, non?
Oui, voilà. Alors, il faut pas y aller avec le dos de la cuillère non plus. Hein. Il faut rester un gourmet et pas trop gourmand. Mm-hmm. Et tout en subtilité, avec du tact. Et c'est une manière, justement, d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre. Hein. Et quand je parle de sexuel, je parle pas de génital. Je parle vraiment de rencontre avec l'autre et de respect de l'autre.
La sensualité, donc.
Oui.
Il y a la question de la sensualité.
Et la sensorialité, le discours. La mémoire aussi, parce qu'on mange aussi avec sa tête, pas qu'avec un estomac, même si l'estomac, c'est ce qu'on considère comme le troisième cerveau.